Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy, le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour. Bonjour Hervé, donc merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, des textes courts, Hervé, nouvelles et nouvelles là. On utilise parfois cette appellation avec Hugues Pagan et son « Mauvaise nouvelle du front » en Rivage Noir, Yvon Coquille pour « Liste noire » aux éditions Inuit et enfin Marin Ledin qui signe aux éditions du Petit Écart « Mon ennemi intérieur ». Un recueil de nouvelles pour commencer, Hervé. Mauvaise nouvelle du front de Hugues Pagan. Mais avant d'aborder le livre en lui-même et ses nouvelles, quand même, il nous faut présenter ce monsieur, Hugues Pagan. Nous n'avons jamais parlé encore dans Variation en noir, Hervé. Et mais c'est bien que nous le fassions enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est un grand monsieur quand même du roman noir, de la littérature, bon, et de celle que nous apprécions particulièrement, mais de la littérature en général, Hervé.
Oui, c'est d'ailleurs dans cette émission, il n'est pas extrêmement fréquent que on parle d'auteurs qui ont été d'anciens policiers, ou qui sont d'ailleurs toujours policiers et qui écrivent des livres. Hugues Pagan, il a été flic pendant 25 ans. Il avait quitté très tôt l'Algérie où il était né, à Orléansville, je crois.
Oui, c'est ça.
Et il avait quitté à 16 ans. Il a enseigné la philosophie et il est rentré dans la police à 25 ans, je crois. Il a fait une carrière de terrain et puis il a terminé à la PJ, je pense, à la brigade criminelle. Il en est, je crois, sorti avec pas mal de sensations de gâchis, avec une certaine désillusion et un certain dégoût. Et on l'avait découvert, Hugues Pagan, et c'était vraiment un choc. C'était en 1982, était sorti un livre avec un titre intrigant et quand même un très beau titre qui s'appelait « La mort dans une voiture solitaire ». C'était chez Engrenage à l'époque. Le texte, 10 ans après, est ressorti dans sa version intégrale, dirons-nous, grâce à François Guérif et aux éditions Rivage, où Pagan a publié une dizaine de titres, et puis dernière station avant l'autoroute, il y a eu un silence de, je crois, de 20 ans.
Oui, c'est à peu près ça, voilà.
Et à nouveau, ce fut le retour littéraire de Pagan l'an dernier avec un roman qui s'appelait « Profil perdu ». Et puis arrive aujourd'hui ce recueil de nouvelles, mauvaises nouvelles du front, qui sont des nouvelles parues de-ci, de-là, et puis totalement inédites. Je crois que c'est celle qui donne son nom au recueil, d'ailleurs.
C'est ça.
Et voilà, ce que je disais au début, c'est que là, il y aura, on va en dire d'autres choses, mais une chose évidente avec Hugues Pagan, c'est que il est bien évident que son métier policier a inspiré ses romans et ses textes.
Largement.
Qu'il met en scène, bien évidemment, avec une extrême crudité, le travail policier dans toutes ses variantes et tous ses excès aussi. mais en même temps, on n'est pas en face d'un auteur comme on l'entend trop souvent, et j'avoue que ça me fatigue beaucoup maintenant, puisqu'il y a pas mal de flics qui se sont mis à écrire des livres, et où on entend, ah ben oui, mais ils savent de quoi ils parlent. Là, la question me semble un peu inappropriée, enfin, cette explication-là. Et la grande différence qu'il y a, quoi qu'il en soit, c'est que chez Pagan, avant tout, il y a du style. C'est-à-dire que c'était déjà le cas en 82, quand on avait découvert la mort dans une voiture solitaire. Et de roman en roman, c'est toujours ça, c'est-à-dire que c'est un grand styliste.
Alors, complètement d'accord, bien entendu, Hervé. Et pour aller un peu plus loin, justement, à propos de Hugues Pagan, je me réfère à la préface du recueil de nouvelles, une préface qui est vraiment... très très bien foutu, j'ai envie de dire, très bien écrit.
Ah oui, elle est à la fois très drôle, très juste, de Michel Ambarek, qui lui-même est un auteur de
journaliste,
voilà. Auteur de polar. Oui,
vraiment très très bien, troussé, ouais. Et qui touche vraiment, je trouve, dans le fond. J'ai envie de dire la littérature de Pagan. Il écrit Michel Ambarek: Pagan n'est pas un ancien flic auteur de polar, pas plus que Larry Brown n'était pompier ou Bukowski postier défroqué. D'ailleurs, il n'écrit pas de polar, mais des guides de survie à l'usage des optimistes repentis. Voilà, et je trouve que c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, peut-être que j'ai lu la préface avant de lire les nouvelles, et peut-être que Bukowski, quelque part, est resté dans mon subconscient en lisant ces nouvelles. Mais quand j'ai refermé ce livre, j'ai pensé, tout au moins pour le titre, au conte de la folie ordinaire. Quelque part, ce recueil de nouvelles aurait pu aussi s'intituler Conte de la folie ordinaire, Hervé.
Ah, complètement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, il y a un écho avec ce genre d'auteur. Je pense aussi que avec Hugues Pagan, on le savait avec ses romans, on le voit à nouveau avec ce recueil de nouvelles. Je crois qu'en France, il a été le premier policier à écrire, en tout cas, des romans noirs ainsi, mais il a plus à voir, je prendrai mes comparaisons du côté américain, qui l'ont évidemment nourri, mais en même temps, il écrit des livres qui se passent très clairement ici et avec une police très française et des décors, qui peuvent aller jusqu'à la Belgique, on en parlera.
Oui.
Mais disons que plus que chez le 87e district de Ed McBain, qui a de très grandes qualités, qui a donné le signal de toute une littérature et de toutes les séries policières d'aujourd'hui, disons, à mon avis, on est plus du côté de David Goodis, ou du Robin Cook de « J'étais Dora Suarez » ou « Des mois d'avril sont meurtriers ». Et évidemment du Charles Bukowski dont tu parles.
Alors bon, encore, ouais, pour peut-être conclure, hein, sur justement ce parcours de Hugues Pagan, il écrivait, je pense que c'est dans une interview pour la revue Polar, Hugues Pagan: donc j'ai fait un choix délibéré de la police pour ensuite pouvoir comprendre et approcher ce que je ne connaissais pas du tout. J'ai l'impression que déjà je voulais lever le voile, faire tomber les masques et regarder un peu ce qui se passait dans la vie réelle. Donc consciemment à 20%, inconsciemment à 80%, j'ai choisi la police parce que c'était un observatoire social qui me paraissait, et qui me paraît d'ailleurs toujours, magnifique. Et effectivement, ce n'est pas un policier qui écrit, mais ce vécu est bien entendu présent dans l'œuvre de Pagan, et donc dans ses nouvelles. Un dernier mot quand même sur Pagan, tu l'as signalé, donc... On n'a pas eu de bouquin pendant une vingtaine d'années, hein, après La dernière station avant l'autoroute, qui est sans doute aussi un des livres pour les auditrices et les auditeurs qui voudraient découvrir Hugues Pagan à lire absolument. Et Michel Ambarek, dans la préface, imagine. Alors, je ne sais pas s'il imagine, hein, ou s'il fait référence à la réalité, mais il se décale d'une biographie officielle qui justifie un silence littéraire de 20 ans par diverses occupations artistiques, écrit Michel Ambarek. Et lui, il l'imagine, alors peut-être c'est la réalité, dans une roulotte avec
Oui.
la famille. Alors Hervé, est-ce que tu as des informations par rapport à ça?
Ça, je ne le sais pas, mais c'est en tout cas je ne sais pas si c'est métaphorique de la part de Michel Ambarek, mais c'est une très belle oui, avec les gitans, avec
Voilà.
voilà, il part dans la vélerine, oui, tout à fait, dans la c'est très très bien. Bon, on sait quand même que Hugues Pagan n'a pas été inactif sur le plan de la création pendant cette période, puisque il a été le scénariste
Oui.
de plusieurs séries policières bien connues, Police District, Mafiosa, Un flic, Nicolas Le Floch, dans lesquels, je crois, il a essayé de mettre à la fois ce goût de l'aventure qu'il a, également une espèce d'y insuffler aussi du réalisme, ce qui n'était pas le cas de séries policières précédentes, comme par exemple PJ ou Quai numéro 1, pour citer des pas très bonnes. Et puis, donc, il a quand même aussi œuvré de cette manière-là, mais j'espère aussi qu'il a pu faire ses voyages en roulotte qu'imagine Michel Ambarek. J'aimerais bien, il y a aussi à un moment dans sa préface, Ambarek dit aussi cela: Pagan fait de l'intrigue un personnage secondaire
Oui.
pour construire un puzzle d'état d'âme dans une ville anonyme où il pleut de la suie entre deux averses de gnôle. J'ai trouvé que c'était aussi une très belle manière de le situer.
Non, mais moi j'ai été impressionné, faut le dire, par bon, bien sûr, par Pagan, mais par cette préface qui se conclut ainsi. Ce recueil de nouvelles paru au hasard, balle traçante entre 1982 et 2010, augmenté de l'inédite mauvaise nouvelle du front, donc, le place au premier rang des orfèvres hackés. Bon, c'est quand même
Oui,
encore une fois
c'est
un
très bon. Et quand
joli clin.
même, oui, je crois me souvenir que par ailleurs il y a des gitans dans comment dire dans les dans la dans les origines familiales de Hugues Pagan. Donc je
Ah,
pense
voilà.
que
Donc,
Michel Ambarek n'a pas fait que laisser son imagination voguer. Voilà.
Alors, bon, une dizaine, peut-être même plus, hein, de nouvelles. Donc, la première, hein, est donc inédite, Mauvaise nouvelle du front, qui nous plonge en fin de compte, qui est sans doute peut-être la plus, j'ai envie de dire, folie ordinaire, hein, de ce recueil, qui nous plonge dans une certaine actualité, puisque Hugues Pagan, comment dire, Hugues Pagan, et imagine des compagnies de CRS dont les supérieurs perdent la main, et donc des CRS qui font un peu n'importe quoi entre eux. Et bon, je parlais d'actualité puisqu'on a quand même beaucoup vu, hein, ces derniers temps, les CRS en action. Et à lire la nouvelle, cette nouvelle de Pagan, on se dit, bah tiens, ce serait quand même pas mal, hein, si ce que raconte Pagan, ça pouvait se passer dans la réalité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hervé.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a de toute façon un regard très très oui, je sais pas, j'allais dire, c'est le regard de Pagan, c'est d'être à la fois très lucide, en même temps très avec mêlant effectivement une certaine désillusion, avec aussi quand même un certain humour à froid, mais un certain humour second degré, un peu dans ses nouvelles. Et par ailleurs, toujours, il y a de l'élégance et il y a de l'éthique, je trouve. Pagan, il y a un côté moraliste dans le beau sens du terme. Hein, j'entends pas d'une morale brute quelconque, c'est pas ça l'idée, hein, mais c'est un homme qui a beaucoup vécu, et je pense que c'est un moraliste, voilà.
Alors, je pense qu'il faut inviter les lectrices, les lecteurs hein, de ce recueil de nouvelles qui pourraient être désarçonnés par ce premier texte, hein, par les premières pages qui sont effectivement troublantes. On met un peu de temps à comprendre ce qui se passe, hein, c'est-à-dire que ben voilà les compagnies de CRS en fin de compte qui sont dressées pour cogner hein, du Black Bloc. Eh bien, elles finissent par se dresser les unes contre les autres, quelque part, hein, dans la rivalité. Donc, inviter les lecteurs à ne pas se laisser désarçonner et puis ensuite à poursuivre, parce que bon, donc on a un certain nombre de textes, on n'aura pas le temps, bien entendu, de les aborder tous, mais je sais que bon.
On arrive à un texte absolument magnifique.
Voilà le deuxième, hein, au stand, donc vraiment très, très. Donc, bien sûr, une incursion, j'ai envie de dire, en Belgique, hein, et dans cette Belgique d'Ostende, vraiment très, très, très puissante, Hervé.
Oui, quand même l'envie de lire quelques lignes. En fait, la mission pour laquelle le narrateur est envoyé à Ostende n'est pas exactement ce qui est le plus important, mais ça nous vaut des passages comme... nous avons longé le quai des pêcheurs. Le phare ne portait pas plus loin que ses pieds. De l'autre côté de la digue, on entendait la mer gronder, des grandes déferlantes au fracas engourdissant. Dans les bassins, les navires grinçaient sur leurs amarres. On entendait claquer les drisses et teinter les girouettes. On entendait le vent raboter le fond de la nuit. La pluie nous venait en pleine figure. On ne ment pas à la pluie, ni d'ailleurs à la vie ou à la mort, parce que ça ne sert à rien, je voulais voir et je n'ai rien vu. Et puis, le narrateur, qui est avec une femme, Kaloun, eh bien, ils vont aller, il dit, nous avons encore un peu traîné en suivant la voie des trams et pris un dernier verre dans une boîte qui s'appelait le Fats Domino Club. Parce que, ça serait la bande-son, évidemment, de ce texte, à mon avis, du livre, à mon avis, de l'œuvre de Pagan. C'est Pagan, c'est du blues en littérature, à mon avis.
Et alors, du blues est aussi, on l'a dit, une forme de, bon, quand même, d'humour. Bon, moi, je pense à la nouvelle intitulée CUI. Alors, CUI, c'est Conduite en état d'ivresse, qui nous place aussi dans l'actualité, hein, puisque, en fin de compte, mon commandant, hein, celui dans la peau duquel se glisse Hugues Pagan, est amené à bien auditionner tout simplement le Père Noël. Hein, Père Noël qui a été arrêté en situation de conduite en état d'ivresse. Mais bon, dit comme ça, c'est bon. On pourrait penser que c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment c'est étonnant. Moi, je trouve que c'est étonnant. Tout comme là, je crois que c'est la suivante. Tu ne te feras pas prendre. Où là, c'est Jésus qui se retrouve au commissariat.
Tout à fait. Il est capable ainsi de ses échappées à la fois oniriques, humoristiques, mais avec toujours une tonalité qui est une tonalité du noir dans son essence, mais en même temps, effectivement, plusieurs de ces nouvelles sont aussi teintées d'un humour qui est un peu original dans ce qu'on connaît de ses textes, mais voilà, on sent le sourire qu'a dû avoir cet homme pudique en écrivant cela. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est aussi une manière une manière humoristique d'en parler, c'est-à-dire que il y avait, on le retrouve, hein, je crois, dans ce recueil, avec la mort dans une voiture solitaire. Pagan avait mis en scène un personnage un peu fétiche qui évidemment a sans doute à qui il a prêté du vécu et des sentiments personnels, qui est Schneider,
oui.
Qui est voilà un homme, une sorte de chevalier on pourrait dire de chevalier à la triste figure, mais qui est une sorte qui fait un peu penser au, je crois que c'est Jean-Pierre Deloup qui disait ça dans Polar, justement, au Desdicado de Nerval. Et Schneider, on l'avait retrouvé dans Profil perdu, on le croise là. Et puis il y a le supérieur,
oui.
Celui-là à qui Pagan aime régler son compte dans certains de ses textes et de ses livres,
c'est clair.
Qui est le patron en second de la division, qui est Yob le Mou, et dont il dit à un moment « Parfait abruti et âne batté, mais qui possédait quasiment droit de vie ou de mort sur ses esclaves ». Voilà.
Voilà, et peut-être pour conclure donc sur Hugues Pagan et ce recueil de nouvelles, en signalant qu'il y a un petit mot qui conclut le livre, ça s'appelle « Et pour finir », donc Hugues Pagan justement, oui. A donné un petit peu quelques clés pour comprendre ce recueil de textes, mais je cite une phrase, quand même elle avait raison, écrit donc l'auteur, Léon était une collègue du commandant, hein, dans la peau duquel se glisse Hugues Pagan. Elle avait raison, Léon. Tout le monde s'en branle, qu'on vive ou qu'on meure.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat emboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé, on n'a plus le temps, même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de
Radio PFM, et vous écoutez Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois. Alors, Les Rescapés, extrait du dernier album de Miossec. Alors, Les Rescapés, parce que Hervé, je pense quand même que ces histoires, ces mauvaises nouvelles du front de Hugues Pagan, publiées en Rivage Noir, sont quand même des histoires de rescapés quelque part.
Oui, absolument. Je pense que c'est des histoires. C'est pour ça que je disais aussi dans un tout autre ordre de style et de milieu. Je pensais à Yvon Coquille dont on va parler, mais ce sont évidemment, oui, des rescapés, des survivants, c'est-à-dire des gens qui, malgré la pluie qui tombe au sens propre et au sens surtout de toutes les douleurs et les tout ce qui s'abat sur la tête, ce sont des hommes et des femmes qui essaient de se tenir droit.
Voilà. Alors oui, et puis bon.
C'est ce
alors,
que j'appelais en fait l'éthique de Pagan et, oui. et qu'on retrouve évidemment. Chez un copil.
Voilà, et donc tu as compris le lien, hein, bien sûr, avec Miossec, le Brestois, qui nous amène donc, à Yvon Coquille, publie. Alors lui, on en a déjà parlé, d'Yvon Coquille. Il est venu à Arras au Salon du Livre hein, pour son précédent recueil de nouvelles.
Métal à la mer.
Voilà, chez Sixto. Donc là, ce sont les éditions Inuit qui publient ce recueil dans leur collection Novella. Alors, Novella sont de courts romans, de longs textes. Une collection.
La collection Polaroid.
Polaroid, oui, par, voilà.
Dirigée par le grand maître de la nouvelle noire, qui est notre ami Marc Villard. Et voilà.
Direction Brest, c'est l'histoire de Lucas, hein, qui est un soudeur, chantier naval de Brest, et puis bon, ben, comme dans beaucoup de secteurs industriels, époque industrielle, il y a des annonces de plans de licenciement, et à partir de là, bon, il y a toute une histoire qui se déroule. Alors, je pense qu'il faut quand même citer la phrase en exergue hein, de ce texte.
Et... J'allais le faire, moi.
Ah
aussi,
bon, d'accord. Bon,
pas
non. Hein. Bon, ben, je te laisse la lire, Hervé.
Le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt.
Voilà, très très beau.
Or, déjà, il y a le double aspect de ce qui caractérisait les nouvelles de Coquille et qui caractérise cette novella est là, c'est-à-dire ce côté à la fois social très présent et ce côté humoristique également.
Oui. Et puis bon, il y a une histoire, hein, il y a des histoires de caravane aussi, si on fait le lien avec Hugues Pagan. Et il se passe d'autres choses. Il y a des personnages vraiment à découvrir, et qui montrent toute la richesse justement des ouvriers qui se lèvent tôt, qui ne sont pas que des personnes qui se lèvent tôt en fin de compte. Et derrière chacun et les ouvrières. Et les ouvriers, eh bien, il y a beaucoup aussi de richesse, d'interrogations, de doutes. Et je trouve que vraiment, Yvon Coquille traduit vraiment très très bien.
C'est ça qui est très bien avec lui. C'est-à-dire que Yvon Coquille, qui lui-même, on a parlé du parcours professionnel du Pagan, qui a nourri ses livres. Yvon Coquille, je crois qu'il a été lui-même charpentier taulier pendant 30 ans.
Il connaît son sujet.
Sur les chantiers navals, à Brest, bien sûr. Ces nouvelles et ce plus long texte, cette novella, sont dégagées absolument de tout manichéisme, de toute simplification des personnages. Comme tu le dis, il y en a quelques-uns, on cerne très bien leurs espoirs, toutes les saletés qui leur tombent dessus, la manière dont ils vont essayer de s'en dégager. Ils ont une humanité très très forte, et il fait ça avec aussi de l'humour, et puis également un sens quand même, puisque là on est face à une novella, un petit roman quand même, un sens aussi de la noirceur d'un récit tendu jusqu'au bout quand même. Hein.
C'est pas un documentaire. Hein.
C'est pas du tout un documentaire.
On est dans la littérature.
Une scène de réunion syndicale peut être, ou une scène de travail peut être rendue avec une vérité, une exactitude que je trouve remarquable de cet auteur. Mais en même temps, il nous parle aussi du trafic de drogue sur les docks. Enfin bon, voilà. c'est, il y a une espèce de vue d'ensemble, et puis de cette liste, comment dire, il y a aussi un sens très, j'allais dire, très polar de ce texte, qui est que c'est une sorte de course-poursuite, puisque Lucas est à la recherche, je crois que c'est Marco.
Marco.
Il sait qu'il va être, Lucas sait qu'il va être sur la liste noire, c'est-à-dire la liste des licenciements, des suppressions d'emplois. Et donc, il essaie de trouver Marco, qui pourrait s'en aller, donc il pourrait être le remplaçant. Enfin bon, voilà.
Oui.
Et cette course-poursuite, c'est l'épine dorsale du texte.
Écoute, Hervé, je te propose, nous avons eu, encore une fois, les yeux plus gros que le ventre, il nous reste une minute, et je te propose que nous parlions de Mon ennemi intérieur de Marin Alaudin lors de notre prochaine émission, parce que ce serait dommage de n'en parler que 30 secondes.
Parler que 30 secondes, je pense même que nous pouvons prendre l'engagement de commencer sur ce texte la prochaine fois.
L'engagement...
Il n'est pas fréquent qu'un auteur produise un texte de réflexion sur ce qui l'a amené au roman noir, d'essayer subjectivement, mais de définir ce qu'est le roman noir pour lui. Et je pense que...
Donc l'engagement... parce que c'est un court texte, mais qui est très riche. Donc l'engagement est pris.
Ah, oui.
Et en plus, ce sera l'occasion de parler des éditions du Petit Écart. Donc, première émission de 2019, nous débuterons par Marin Alaudin, Mon ennemi intérieur. Alors, pour conclure... c'est la période de fin d'année. J'ai reçu, Hervé, le cadeau 813, parce que tous les adhérents de 813 reçoivent tous les ans un cadeau, et le cadeau, sans surprise, c'est un livre, bien entendu, et un roman noir. Et cette année, donc, c'est Tom Bouman, Dans la vallée des Charnés, un roman traduit de l'anglais par Alain Defossé aux éditions Actes Noirs. Et ça donne vraiment très, très envie il donne très envie. Hervé, tu as participé au choix, peut-être, de ce bouquin?
J'ai participé à la recherche du cadeau 813, qui chaque année se fait avec... l'an dernier, c'était Gallmeister. Cette année, l'année d'avant, c'était Anne-Marie Métellier. Là, c'est avec Actes Sud, Actes Noirs. Je n'ai pas lu ce roman, mais voilà, écoute, on va le découvrir, ensemble.
Voilà.
Mais en tout cas, voilà.
À l'occasion, on en parlera peut-être.
Très bien.
Voilà.
Très bien.
Et puis dernière chose. Alors vraiment, c'est le hasard. Je suis allé pour me replonger un petit peu dans le parcours de Pagan, dans la Bible des amateurs des littératures policières, le dictionnaire des littératures policières, et figure-toi... Voilà, et figure-toi... justement, une petite question. Donc, Hugues Pagan, qui se trouve juste avant Hugues Pagan dans ce dictionnaire, Hervé?
Donc ça commence. Leonardo Padura, à mon avis.
Exact. Il est trop fort.
C'est l'alphabétique qui m'aide. Peut-être que je connais un peu tes goûts littéraires.
Et tu es trop fort. Donc effectivement, alors là, le livre n'est pas encore sorti, mais il sort le 10 janvier aux éditions Métellier, l'éditeur Leonardo Padura. Et donc c'est un roman que l'on attend avec grande impatience. Et celui-là, je pense qu'on en parlera aussi. Prochainement dans Variations en noir.
Très volontiers, parce que Padura, c'est un auteur absolument essentiel à mon avis.
Ça s'appelle La transparence du temps, et Condé est à l'approche de son... Condé, c'est le personnage... enquêteur qui n'est pas non plus un policier, qui a été policier et qui ne l'est plus, l'enquêteur de Leonardo Padura, qui approche donc de son 60e anniversaire. On a vraiment envie de découvrir aussi ce roman. Voilà, Hervé. Mais écoute, merci encore une fois à toi pour ta participation, ta contribution à notre émission.
Merci à toi, merci à vous. C'est un vrai plaisir. Voilà, toujours. Et ben bonne lecture à tous, bonne fête.
Voilà, c'était merci Hervé. C'était Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières.